sexualité quand on est chercheur, je vous dis tout de suite, je ne suis pas sexologue, c'est-à-dire que mon métier, ce n'est pas de rencontrer des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes dans leur sexualité. Mon métier, c'est de produire des connaissances scientifiques pour essayer d'alimenter le débat public qu'il peut y avoir autour des questions de sexualité, des sexualités des jeunes, mais des moins jeunes, voire des personnes âgées, les questions liées au sida. Je travaille beaucoup sur le sida, la prévention du sida, en France, en Afrique, en Europe, mais je vais parler de la France aujourd'hui. Donc le métier de chercheur, c'est de monter des enquêtes pour essayer de vérifier des hypothèses qu'on pose, pour essayer, en l'occurrence, pourquoi cette enquête sur la sexualité dont je vais vous parler a eu lieu. Parce qu'on se rend compte que aujourd'hui, toujours, il y a énormément de gens qui se contaminent par le virus du sida, que même si on a des traitements efficaces, ça reste une maladie très grave, et que si on pouvait mettre au point des politiques de prévention qui étaient plus efficaces pour que les gens ne se contaminent pas, ce serait bien, et que comme le sida, c'est une maladie qui se transmet par voie sexuelle, pour mettre au point des politiques de prévention efficaces, on a besoin d'avoir des informations scientifiques sur le sujet. Et les informations scientifiques, ce n'est pas celles qu'on lit dans les médias, qu'on écoute à la radio, qu'on entend à la télévision. C'est des informations qui sont collectées avec une méthode très rigoureuse. Alors, je ne vais pas vous faire de méthodologie aujourd'hui. J'ai préféré vous parler directement de résultats. Mais ce que je veux juste dire, c'est que c'est une enquête qui a été réalisée en 2006 par une équipe de 20 chercheurs qui ont travaillé pendant plusieurs années. Un questionnaire qui a été testé pendant des mois et des mois avant d'être posé à 12 000 personnes en France. Alors je précise, c'est en France, c'est pas la sexualité des Français, c'est la sexualité en France, c'est-à-dire que ça concerne toutes les personnes qui habitent en France, quel que soit leur âge, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur sexualité. C'est une enquête qui s'adresse à l'ensemble de la population. Voilà. Alors, ce petit préambule étant posé, pourquoi parler de sexualité? J'ai vu sur les affiches, là, c'est la sexualité chez les adolescents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire parler de sexualité? Moi, je ne vais pas vous parler des problèmes que certaines personnes peuvent rencontrer dans leur sexualité. Ce n'est pas du tout mes compétences. Mais je vais vous donner des grandes tendances et puis je voudrais surtout voir avec vous qu'est-ce qui se passe au moment où on entre dans la sexualité dans une société comme la société française. C'est très différent selon les sociétés. On va parler de la France. La France en général, pas que de la région Nice et ses alentours, même si certains de vos enseignants sont persuadés qu'à cause du soleil niçois, il y aura une spécificité de la sexualité à Nice. Moi, j'en suis pas persuadée. Je vais plutôt vous parler du fait que, évidemment, que la sexualité, c'est une pratique extrêmement intime. Et il y a d'ailleurs des gens qui se disent « Mais pourquoi les chercheurs, ils travaillent sur la sexualité? Ça les regarde pas, la sexualité. On ferme la porte, ça concerne une, deux ou plusieurs personnes, mais sinon, ça concerne pas... Ça ne concerne pas l'État, ça ne concerne pas les chercheurs. Moi, je vais vous montrer que, bien sûr, c'est quelque chose de très intime, mais que même ce qui est très intime, c'est construit différemment selon les sociétés, selon les époques. Et c'est, moi, je voudrais bien qu'à la fin de ce topo et des questions qu'on va avoir ensemble, que vous ayez en tout cas un regard critique sur tout ce qu'on peut raconter sur la sexualité, tout ce qu'on dit qui est normal, qui n'est pas normal. Moi, je vais voir avec vous que dans ce domaine-là, il n'y a qu'une chose de normal. C'est de se respecter soi-même, de respecter le partenaire, et le reste, c'est de la sociologie, et on va faire un petit voyage en sociologie de la sexualité ensemble. Ça, c'est pour le terme sexualité. Donc moi, quand je vais en parler, je vais parler des pratiques, de l'âge auquel on a un premier baiser, un premier rapport sexuel, du nombre de partenaires qu'on peut avoir, de choses comme ça. Mais je vais parler aussi de relations, parce que la sexualité, parfois, ça se fait tout seul. Il y a des pratiques sexuelles comme la masturbation, c'est tout seul. Mais le plus souvent, c'est avec une autre personne, donc on va parler de ça aussi. Et puis, on va aussi parler des représentations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées sur la sexualité. Et puis, on va s'interroger ensemble sur qu'est-ce que ça veut dire d'avoir telle et telle idée sur la sexualité. Voilà. Quant à l'adolescence, je ne suis absolument pas une spécialiste de l'adolescence, mais alors absolument pas. Vous l'êtes sûrement beaucoup plus que moi, pas scientifiquement, mais parce que vous... Enfin bon, j'ai été adolescente aussi, comme tout le monde, à un moment donné. En tout cas, pourquoi ça m'intéresse de travailler sur l'adolescence? C'est pas uniquement parce que c'est à l'adolescence qu'en général, on commence sa vie sexuelle. C'est intéressant, l'adolescence, pour nous, les chercheurs aussi, parce que, d'abord, on dit beaucoup de choses sur l'adolescence, et vous allez voir que, avec ce que je vais vous montrer, ça va nous conduire à relativiser fortement les discours qu'on entend aujourd'hui sur les ados aujourd'hui... ils font n'importe quoi, ils ont une sexualité délurée, etc., etc. Donc ça m'intéresse de contrer les idées reçues, c'est le propre de la démarche scientifique. Mais c'est intéressant, l'adolescence, parce que c'est une phase de la vie où on est, qu'on le veuille ou non, souvent d'ailleurs on ne le veut pas, mais de fait on est sous la dépendance matérielle de sa famille et de l'école. Puis ça ne s'arrête pas à l'adolescence, hein, ça continue encore quelques années après. Et que l'enjeu essentiel de cette phase de la vie, ben, vous le savez bien, c'est de construire sa propre vie, de son autonomie privée, et qu'on essaye de construire sa sphère personnelle. Et du coup, pour ce faire, ben, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre en place des relations qui échappent à l'institution scolaire et à la famille. Et pour échapper à l'institution scolaire et à la famille, ben, c'est essentiellement les relations. Alors les sociologues, ils disent les pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire les copains, quoi. C'est dans les relations avec les pairs qu'on se construit. Et c'est d'ailleurs dans ces relations-là qu'essentiellement se construisent les normes, c'est-à-dire les représentations qu'on peut avoir de différents phénomènes, et en particulier de la sexualité. Et puis, c'est aussi à cette époque-là de la vie qu'on commence à, pour la plupart des gens, mais pas pour tout le monde, à avoir des relations amoureuses. Et ces relations amoureuses, eh ben, elles font progresser les ados dans la construction de soi, parce que c'est typiquement le lieu où on se confronte à l'autre, et à un autre qui a une importance évidente pour ce qui concerne les premières expériences dans la sexualité. Alors, je vais faire trois parties dans cet exposé, donc on va voir un certain nombre de données sur les pratiques, et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant ce qui se passe le 28 mars 2011 dans la société française. Les chercheurs en sciences sociales, vous avez, je crois, tous des cours de SES, on essaye de voir aussi comment les choses évoluent dans le temps. Donc je vais vous donner quelques informations sur la façon dont se déroule l'entrée dans la sexualité en France aujourd'hui. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais vous parler donc de ces représentations de la sexualité. Qu'est-ce que les gens pensent de manière dominante dans la société française et qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ces représentations, à quoi elles servent? Et puis je terminerai par quelques données sur les questions autour de la contraception et de la prévention, parce que c'est aussi un champ de recherche sur lequel je travaille beaucoup, puisque je vous ai dit en introduction, je travaille beaucoup sur la prévention du VIH, mais aussi beaucoup sur la question de la contraception et de l'avortement chez les jeunes. Et vous n'avez peut-être pas suivi la presse, mais très récemment, il y a eu un colloque, et puis il y a eu beaucoup d'articles dans la presse où il y avait marqué « Les spécialistes de santé publique s'alarment de l'augmentation des IVG chez les jeunes ». Ben moi, je vais vous dire que j'ai essayé de vous montrer pourquoi il n'y a absolument pas lieu de s'alarmer, et qu'il y a différentes façons de voir les choses, et que il suffit d'avoir un petit peu de connaissance et de regard critique pour être capable de savoir soi-même ce qu'on peut dire sur tous ces discours qu'on lit de ci, de là dans les médias. Alors voilà, la première chose que je voulais dire, c'est le tableau le plus compliqué, je pense que vous ne le voyez pas au fond, c'est pas grave, je vais le commenter après ces quelques courbes. Je vais appuyer mon exposé sur des données statistiques, mais qui sont très simples. Une chose qui est extrêmement importante aujourd'hui par rapport aux générations les plus âgées, donc c'est même pas les générations, la mienne ou celle de vos enseignants, c'est plutôt celle de vos grands-parents, qui est caractéristique dans la société française, c'est une autonomie de plus en plus marquée des adolescents vis-à-vis de leur famille. Et je vous donne juste un chiffre, les femmes qui ont aujourd'hui entre 60 et 69 ans, donc vous avez sûrement une grand-mère, une tante ou quelqu'un qui appartient à cette génération-là, eh ben, il y avait plus de 70% des filles, quand elles étaient filles, hein, quand elles avaient 18 ans, qui n'avaient pas le droit de sortir du tout, au moment autour des 18 ans, elles n'avaient pas du tout le droit de sortir. Aujourd'hui, les 18-19 ans, donc c'est vous dans peu de temps, puisque 17% des filles déclarent qu'elles n'ont pas le droit de sortir du tout. D'accord ? Il y en a 43% qui disent qu'elles peuvent sortir, mais qu'à chaque fois, il faut demander. D'accord ? Ça, c'est les filles. Maintenant, on va voir les garçons. Vous allez voir, à chaque fois, je vais vous dire les filles et les garçons, mais je voudrais essayer de vous faire réfléchir qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il y a autant de différences entre les filles et les garçons. Et je vais annoncer la couleur tout de suite. La différence entre les filles et les garçons, elle n'est pas biologique ou génétique, évidemment. Un corps de fille et un corps de garçon, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais la différence entre les filles et les garçons, elle traduit le regard que la société porte sur la sexualité des filles et sur la sexualité des garçons. Et c'est un regard très différent, et je vais essayer de voir avec vous qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on contrôle beaucoup plus la sexualité des filles que la sexualité des garçons. Les garçons, ils n'étaient que 28% parmi les vieux à devoir avoir pas du tout le droit de sortir, donc prenez vos grands-pères, vos grands-oncles ou autres, et aujourd'hui ils sont plus que 9% à avoir pas du tout le droit de sortir avant les 18 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse la plus importante chez les garçons, c'est pas de dire aujourd'hui, hein, chez les jeunes de 18-19 ans, oui, mais il faut que je demande à chaque fois. La réponse la plus importante pour les garçons, c'est de dire Oui, mais vous disiez où vous allez et à quelle heure vous rentriez. D'accord ? Donc en fait, ce qu'on voit à travers, vous voyez, juste quelques chiffres, c'est que, un, les choses ont beaucoup changé au cours du temps, et qu'une des caractéristiques, et qui pose problème aux adultes, c'est que les ados aujourd'hui ont une beaucoup plus grande autonomie vis-à-vis des adultes que la génération des parents et des grands-parents. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que pour les filles, c'est davantage un contrôle strict sur les autorisations de sortie avant 18 ans, alors que pour les garçons, c'est davantage un contrôle souple où il suffit de dire où on va et ce qu'on a l'intention de faire. D'accord ? Alors que les filles, elles doivent demander si elles peuvent avant. Les garçons, ils disent, ben voilà, je vais chez un tel machin, je vais à tel concert, je vais boire un coup avec un tel et un tel. Alors que les filles, elles doivent toujours demander. Donc c'est une opposition entre contrôle strict et contrôle souple. Alors, une autre chose qui a beaucoup changé, et encore une fois, si j'insiste sur tous ces changements, c'est parce que je pense que ces changements, ils déroutent beaucoup le monde des adultes. Surtout que ça s'est passé en très peu de temps, finalement. Là, c'est un dessin, une courbe, qui montre, pour les filles, l'âge des premières règles. Vous voyez que ça ne change pas, hein, c'est quelque chose d'éminemment biologique, l'âge des premières règles. Ça ne change pas au fil du temps. Mais ce qui a changé de manière spectaculaire, vous voyez, c'est l'âge du premier baiser. On va voir juste après, c'est ça qui est intéressant. L'âge du premier rapport sexuel, ça n'a pas changé. Contrairement à ce qu'on entend partout, à ce qu'on lit partout, les jeunes, ils ont une sexualité de plus en plus précoce. Oui, mais ça veut dire quoi, sexualité de plus en plus précoce? Ils n'ont pas des rapports sexuels plus tôt qu'avant, vous allez le voir. Mais en revanche, ce qui a changé, c'est l'âge au premier baiser, qui était à peu près de 17-18 ans chez les plus âgés, les 60-69 ans. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est autour de 14 ans. Et ça veut dire un point important, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une concomitance, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a le bouleversement biologique qui est lié à la puberté. Alors, vous savez bien que chez les garçons, il n'y a pas les règles, mais il y a évidemment des modifications hormonales très importantes. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est que les modifications hormonales liées à la puberté interviennent au même moment que les premières rencontres amoureuses à travers juste le baiser. Enfin, c'est ce qu'on appelle le French kiss. C'est pas le petit baiser sur la bouche ou se donner la main pour aller au ciné. C'est le vrai baiser avec la langue. Donc vous voyez, les plus âgés, il y avait plusieurs années entre la modification pubertaire liée à l'adolescence et les premières explorations amoureuses. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se passe au même moment. Mais, et j'insiste là-dessus, là vous avez, je l'ai mis exprès, c'est une diapositive que j'ai repris d'un article en anglais, donc vous oubliez les petits titres en anglais, mais ce qui est important, c'est que c'est l'âge au premier rapport sexuel depuis 1939 jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est bien, là on va faire en même temps de la SVT de l'histoire, d'un seul coup, 1939, vous voyez bien à quelle période de l'histoire française ça correspond, et 2005 jusqu'à aujourd'hui donc. Hein. Ben, vous voyez que les hommes qui sont en vert, les femmes sont en orange. Et alors là, il y a quelque chose d'assez intéressant sur cette diapositive, c'est que, en gros, vous voyez que les hommes, ça n'a pratiquement pas évolué au fil du temps, l'âge du premier rapport sexuel. Ceux qui avaient leur premier rapport sexuel la veille de la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui, vous voyez qu'on est passé de 18 à 17 ans. On a perdu un an sur toute cette période-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez pour les femmes, l'évolution spectaculaire qu'il y a eu. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, elles avaient leur premier rapport sexuel en moyenne à 22 ans, et aujourd'hui, c'est pratiquement au même âge que les garçons. Et il y avait 4 ans d'écart entre les filles et les garçons à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, 4 ans, et aujourd'hui, il y a 4 mois. Alors, je vous ai montré que l'âge des premières règles, il n'avait pas changé. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas des raisons biologiques qui peuvent expliquer cette évolution absolument spectaculaire. En fait, quand on fait des analyses un peu approfondies, ce dont on se rend compte, c'est que si la sexualité a autant évolué pour les femmes, c'est lié au fait qu'elles ont de plus en plus accès à l'éducation et de plus en plus accès à un travail salarié, et que du coup, l'égalité fille-garçon est beaucoup plus importante dans notre société qu'elle ne l'était dans les générations plus anciennes. Et ça vous montre, de manière indirecte, que finalement, ce qui détermine les événements importants de la sexualité, ce n'est pas des trucs biologiques, c'est des facteurs sociaux, économiques et culturels, et je vais revenir dessus. L'autre point très important que je voudrais vous souligner, c'est que vous voyez qu'en gros, depuis 1975, l'âge du premier rapport sexuel n'a pas changé. Et encore une fois, et c'est pratiquement dès que vous ouvrez un journal, que ce soit des journaux féminins, masculins ou même des quotidiens, on entend régulièrement des grands spécialistes s'exprimer pour dire qu'aujourd'hui en France, les jeunes ont une sexualité de plus en plus délurée, ils commencent de plus en plus tôt. La réponse, elle est clairement non. Clairement non. C'est pas vrai. Les jeunes n'ont pas une sexualité qui commence de manière plus précoce aujourd'hui qu'avant. Alors, cela dit, vous avez dû l'apprendre en cours de SES, il faut se méfier des moyennes. Parce que les moyennes, c'est facile quand on fait un exposé, je ne vais pas vous bombarder de 50 chiffres, mais les moyennes, c'est des moyennes, quoi. Et autour des moyennes, il y a une grande diversité. Et je vais vous montrer juste 2-3 exemples de comment ça varie l'âge d'entrée dans la sexualité en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. D'abord, je voudrais vous montrer que l'entrée dans la sexualité, c'est très, très, très majoritairement une sexualité hétérosexuelle. D'accord ? Il y a moins de 1% des jeunes qui ont leur tout premier rapport avec pour les garçons avec un autre garçon, pour les filles avec une autre fille. Et vous voyez que les personnes qui ont leur premier rapport sexuel avec une personne du même sexe l'ont beaucoup plus tard pour les filles, un tout petit peu plus tard, c'est le rouge versus le rose clair pour les garçons. Et ça, ça traduit quoi ? Ça traduit un point important, c'est que dans les représentations, ce qui est valorisé, on est dans des sociétés, ce n'est pas le cas de toutes les sociétés, où ce qui est considéré comme normal, c'est l'hétérosexualité. C'est le rapport sexuel avec une personne de l'autre sexe. Et la sexualité avec une personne du même sexe, c'est considéré comme quelque chose de déviant, voire même de pathologique. Alors que, d'un point de vue scientifique, toujours, je ne parle pas du tout du point de vue moral, la sexualité, rien ne prédestine l'être humain à avoir forcément des rapports sexuels avec une personne de l'autre sexe. Il y a un autre point qui fait varier beaucoup l'entrée dans la sexualité, c'est le niveau d'études. Et là, vous voyez qu'en gros, ce qu'on voit, que ce soit pour les hommes ou pour les garçons, les femmes ou les hommes, eh ben, plus on fait des études, plus on a son premier rapport sexuel tard. Et ça, c'est pareil, c'est pas parce que ceux qui vont faire des études, ils ont des gènes différents ou des systèmes biologiques différents de ceux qui ne feront pas d'études. Ça veut dire tout simplement qu'en général, les jeunes qui font des études, qui vont faire des études supérieures, c'est des jeunes qui vivent beaucoup dans des milieux sociaux où les parents poussent à faire des études, et le discours qu'ils entendent chez eux, c'est « passe ton bac d'abord, passe ton M1 d'abord, ta licence d'abord, etc. » Enfin, c'est des milieux sociaux où ce qui est valorisé, c'est les études, et où il y a un contrôle plus fort sur la sexualité, sur la sortie des jeunes, pour qu'ils se cantonnent bien à leurs études. Donc ce qu'on voit là, c'est l'effet du milieu familial, beaucoup plus que des histoires, encore une fois, qui relèveraient de facteurs strictement individuels. Dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est l'âge au premier rapport et l'importance de la religion. Vous voyez que pour les hommes, il n'y a pas de différence. Quelle que soit leur religion, ils ont à peu près leur premier rapport sexuel au même âge. En revanche, et de manière très spectaculaire pour les femmes, vous voyez que quand elles ont déclaré être leur affiliation était musulmane affirmée, c'est-à-dire pour qui la religion était extrêmement importante, elles ont un premier rapport sexuel beaucoup plus tardif. C'est également le cas pour celles qui se disent chrétiennes et pour lesquelles la religion est extrêmement importante, mais vous voyez de manière beaucoup moins marquée. Enfin, on voit ce gradient selon la religion pour les filles qu'on ne voit pas pour les garçons et qui traduit encore une fois un contrôle social beaucoup plus important sur la sexualité des filles. Alors, ce que je voudrais dire pour terminer sur le premier rapport sexuel, c'est que, je vous ai dit, avant la guerre, là, il y avait 4 ans d'écart entre le premier rapport sexuel des filles et des garçons. Aujourd'hui, il n'y a plus que 4 mois. En moyenne, les filles ont leur premier rapport sexuel à 17,6 ans, en moyenne. Ça veut dire, plus exactement, c'est l'âge médian. Je ne sais pas si c'est un indicateur que vous avez vu en SES. C'est-à-dire 50% des garçons ont leur premier rapport sexuel avant 17,2 ans, et 50% l'auront après. Pour les filles, c'est 17,6. Donc il n'y a plus que 4 mois d'écart. Avant, il y avait 4 ans d'écart. Mais ce que je veux dire, vous montrer à travers cette diapositive, c'est que même si le premier rapport sexuel, c'est presque au même âge pour les filles et les garçons, et bien pour autant, ça continue à être un événement qui est vécu de manière très différente pour les filles et les garçons. Pour les filles, elles ont beaucoup plus souvent un premier partenaire sexuel qui est plus âgé que les garçons. C'est plus souvent leur futur conjoint ou leur futur amoureux stable que les garçons. Les garçons, ils ont beaucoup plus souvent un premier rapport par désir, curiosité, alors que les filles, c'est beaucoup plus souvent par amour et par tendresse. Ça ne veut pas dire toutes les filles, ça ne veut pas dire tous les garçons, ça veut dire c'est beaucoup plus souvent. Et puis, un autre point important, c'est que pour 16% des filles, elles auraient préféré que ce rapport sexuel, il n'ait pas lieu à ce moment-là. C'est le cas seulement de 7% des garçons. Donc vous voyez à travers quelques chiffres comme ça, que ça continue à être un événement qui est vécu de manière très différente par les filles et les garçons. Et s'il fallait résumer d'une phrase, on pourrait dire que les filles, elles continuent à être éduquées dès leur plus petit jeune âge à la crèche, et puis dès qu'on leur offre les premiers aspirateurs, les premières Barbies, etc., etc., même si ce n'est plus des Barbies aujourd'hui, on continue à socialiser les filles à une sexualité qui doit être conjugale et affective. En gros, on les prépare à leur rôle de future mère, alors que les garçons, on leur laisse la possibilité d'avoir une sexualité qui est beaucoup plus pensée sur le registre du plaisir. Donc vous voyez, ça se construit. Ça marche. Les différences entre les filles et les garçons, vous voyez, dès le premier rapport sexuel, elles existent. Et elles vont continuer tout au long de la vie. Alors, comme le sujet d'aujourd'hui, c'est les jeunes, on va rester chez les jeunes, mais vous voyez que entre le premier rapport sexuel et la première mise en couple, c'est-à-dire en gros le premier rapport sexuel autour de 17-18 ans et la première mise en couple autour de 25-29 ans, donc il y a quand même pas mal d'années qui s'écoulent, ben vous voyez que la majorité des filles n'ont qu'un seul partenaire en plus du premier rapport, c'est la barre de gauche, hein, alors que les garçons, vous voyez, c'est la figure inverse, c'est les garçons qui sont sur la droite. La majorité d'entre eux auront 6 partenaires ou plus entre le premier partenaire et la première mise en couple. Donc vous voyez que cette phase d'entrée dans la sexualité, c'est pas que le premier rapport, c'est pas que le premier baiser, c'est tout ce qui va se passer dans les années avant qu'on se mette en couple, si on se met en couple, enfin c'est le cas de la plupart des gens, et pour la plupart des gens aussi qui décident d'avoir des enfants, et bien cette phase de la jeunesse sexuelle, elle se vit de manière très différente pour les filles et pour les garçons. Alors, je vais passer très vite sur ce point-là, c'est juste, mais ça vous devez bien le savoir, une des nouveautés, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a des nouveautés dans la vie affective et sexuelle, une des nouveautés, c'est Internet. Et vous avez là le pourcentage de personnes selon l'âge qui se sont déjà connectées à un site de rencontre sur Internet. Et puis sur la partie droite du graphique, c'est les personnes qui ont déjà eu des rapports sexuels avec des partenaires rencontrés sur Internet. Et ce qui est intéressant, les chiffres, on s'en fiche un peu de savoir exactement quel est le pourcent d'hommes. Mais ce qui est intéressant, regardez sur l'extrême gauche de la diapo. Vous avez en orange toujours les filles, en vert toujours les garçons. Vous voyez qu'à 18-19 ans, les filles se connectent beaucoup plus que les garçons sur des sites de rencontres, beaucoup plus. Mais maintenant, passez sur l'autre diapo à droite, vous voyez que la barre orange chez les 18-19, elle est plus basse que la barre verte. Ça veut dire que les filles, elles se connectent beaucoup plus, mais elles passent moins souvent à l'acte. Et comment ça s'interprète sociologiquement, ça? Le fait de pouvoir aller se connecter sur Internet sans contrôle parental, sans contrôle des pairs, c'est une des façons que les filles ont de sortir un peu de ce contrôle social qu'il y a sur leur sexualité, qui reste beaucoup plus fort que le contrôle qu'on a sur la sexualité des garçons. Voilà. Alors, j'en ai fini sur la question de quelques indicateurs sur les pratiques, hein, sur donc premier baiser, qu'est-ce qui fait varier l'âge au premier rapport, le nombre de partenaires qu'on aura après. J'ai pas mis de diapositive sur les pratiques sexuelles. Ce qu'on peut dire sur les pratiques sexuelles, c'est qu'aujourd'hui, les pratiques sexuelles, que ce soit la masturbation ou la pénétration vaginale, évidemment, mais tout ce qui est la sexualité orale, fellation ou cunnilingus, c'est expérimenté par une très, 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 très large partie de la population, avec une spécificité quand même, qui est intéressante, et j'aurais pu faire une diapo là-dessus d'ailleurs, c'est que pour ce qui concerne la pratique de la masturbation, c'est beaucoup plus tôt chez les garçons que chez les filles, et ça a aussi un sens sociologique. Ça a aussi un sens sociologique parce que c'est une pratique qui n'a évidemment aucune finalité de reproduction, la masturbation, mais que de plaisir. eh ben, elle est autorisée beaucoup plus tôt chez les garçons que chez les filles. Et les garçons commencent 2 ou 3 ans avant les filles à avoir ce type de pratique sexuelle, ce qui est encore un autre indicateur des différences qu'on a dans la sexualité entre les filles et les garçons. Voilà, donc je vais maintenant aborder, sauf si vous avez des questions ou des points sur lesquels vous voulez que... Pardon ? Ben, vous voyez, cela dit, que les Internet, je ne parle pas évidemment de tous les chats de Facebook, etc. Là, je parlais des sites de rencontres pour rencontrer un partenaire. Alors, vous me direz, on peut aussi se brancher sur Facebook pour tchatcher, et c'est là aussi que... C'est vrai qu'Internet, c'est quelque chose qui a vraiment, vraiment bouleversé les conditions de rencontre des gens, pas que pour les enjeux liés à la sexualité, d'ailleurs d'une manière beaucoup plus générale, et qu'on peut dire des tas de choses sur Internet, que ce soit sur Facebook ou d'autres lieux d'expression, qu'on a plus de difficultés parfois à dire en face à face, et c'est vrai que ça, c'est une grande, grande, grande modification dans les façons de se rencontrer. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu, comme ça vous aurez un peu un scénario, un paysage global, des représentations qui sont dominantes sur la sexualité en France. Et je vous ai mis exprès tous les âges parce que, pour vous montrer qu'est-ce qui a changé, en quoi les jeunes sont quand même beaucoup plus ouverts que les adultes sur certains points, et puis en quoi sur d'autres points ils ne sont pas du tout plus ouverts que les adultes. Alors là, vous avez une question sur l'homosexualité. Et on demandait aux gens, à propos des rapports homosexuels, on leur demandait, diriez-vous plutôt que c'est une sexualité comme une autre ? Donc ils avaient le choix. Est-ce que c'est une sexualité comme une autre ? Est-ce que c'est plutôt une sexualité contre nature ? Est-ce que c'est un problème psychologique ? Ou est-ce que c'est une sexualité libérée ? Là, j'ai mis exprès les deux items, une sexualité comme une autre. Donc ils considèrent que ce qui est important dans la sexualité, c'est que les deux partenaires en aient envie, et puis peu importe que ce soit homo ou hétérosexuel. Encore une fois, je vous rappelle qu'il y a des sociétés dans lesquelles l'homosexualité est extrêmement développée. Vous avez dû voir ça dans vos cours d'histoire, la Rome antique, où ces pratiques étaient extrêmement développées. Il y a des sociétés aujourd'hui encore où les pratiques d'initiation, de rites, de passage de l'adolescence à l'âge adulte sont marquées par des pratiques homosexuelles que nous, occidentaux, on qualifierait d'homosexuelles. Et puis, on vit dans des sociétés, nous, où l'homosexualité, même si elle est beaucoup plus acceptée qu'avant, reste quand même très problématique. Et vous avez là, en particulier, vous pouvez voir que les jeunes, donc les 18-24 ans, qui sont sur la gauche des graphiques, sont beaucoup plus nombreux que les vieux à dire que c'est une sexualité comme une autre. D'accord ? Donc on voit qu'il y a vraiment une ouverture d'esprit plus importante chez les jeunes générations aujourd'hui. Mais d'un autre côté, vous pouvez voir que vous avez encore plus de 20%, ça veut dire 1 sur 5, des garçons de 18-24 ans qui considèrent que l'homosexualité, c'est une sexualité contre nature. C'est 2 fois moins chez les filles. Donc les garçons sont moins ouverts à diverses formes de sexualité que les jeunes filles ne le sont. Alors il ne s'agit pas de dire « Ah, ce qu'ils pensent c'est nul » ou « ce qu'elles pensent c'est bien ». C'est juste de montrer à travers ça à quel point, finalement, on continue à penser que la sexualité normale, c'est la sexualité entre un homme et une femme. Et non seulement le modèle dominant, c'est la sexualité hétérosexuelle dans notre société, mais en plus, beaucoup plus pour les filles que pour les garçons, vous allez le voir, pour les femmes que pour les hommes, la majorité des femmes considèrent qu'on ne peut pas avoir des rapports sexuels si on n'aime pas la personne. En fait, là, c'est la question, le pourcentage inverse que je vous ai mis. On peut avoir des rapports sexuels avec quelqu'un sans l'aimer. Vous voyez que les jeunes hommes sont un peu plus, entre guillemets, ouverts, enfin, dissocient plus facilement la sexualité des sentiments que les hommes les plus âgés. Et vous avez à peu près 60% des jeunes aujourd'hui qui pensent qu'on peut avoir des rapports sexuels avec quelqu'un sans l'aimer. Mais vous voyez que les filles, les femmes, eh ben, elles ne sont que 30%. Donc inversement, il y en a 70% qui pensent qu'on ne peut pas avoir des rapports sexuels avec quelqu'un sans l'aimer. Et ce pourcentage, vous voyez que la barre, elle est pratiquement, elle n'a pas évolué exactement au fil du temps. Ça veut dire que les femmes, elles sont toujours les mêmes idées, quel que soit leur âge. Chez les garçons, sur ce point-là, il y a une progression. On peut dire en même temps que sociologiquement, ce n'est pas très étonnant, vu ce qu'on apprend, ce que je vous ai montré, ce qui se passait dès l'entrée dans la sexualité. C'est une socialisation qui s'exerce dès le plus jeune âge et qu'on retrouve ensuite de manière constante, quel que soit l'âge des femmes qui sont interrogées. Et puis, celle que je préfère, c'est celle-là, parce que je trouve qu'elle est extraordinaire, c'est de dire, la question c'était, il y a des gens qui considèrent que par nature, les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes, est-ce que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord et pas d'accord du tout? Alors, petite parenthèse, sous le regard bienveillant de vos profs de SVT, par nature, les hommes n'ont pas plus de besoins sexuels que les femmes. Les hommes et les femmes ont tous les deux soit pas du tout de besoins sexuels, soit beaucoup de besoins sexuels. Il y a des processus biologiques et hormonaux qui sont différents pour les filles et pour les garçons. On est d'accord. Un corps de garçon, la puberté chez un garçon, la puberté chez une fille, les hormones chez un homme, les hormones chez une femme, ça peut être différent. Mais ça, c'est une chose. Mais de là à dire qu'en termes de besoins, ça traduirait plus de besoins pour les hommes que pour les femmes ou pour les femmes que pour les hommes, ça ne repose sur aucune connaissance scientifique. Mais néanmoins, vous voyez que l'immense majorité des gens considèrent que par nature, donc si c'est par nature, ça veut dire qu'on ne peut rien y faire. C'est la biologie, c'est la nature, on ne peut rien faire contre la biologie et la nature. Et bien vous voyez que l'idée dominante dans la société française en 2006, date de l'enquête, et je parierais tout ce que vous voulez que ça n'a pas changé, l'idée dominante c'est que l'immense majorité des gens partagent, c'est que par nature les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que d'une part ça n'a aucun fondement scientifique, mais c'est une représentation très forte, et c'est une représentation qui justifie, et je ne vais pas vous le développer, mais que quand un homme a envie d'avoir des rapports et qu'une femme n'a pas envie, ben, c'est normal d'accepter. C'est normal d'accepter parce que c'est par nature, c'est biologique, il a besoin. L'homme a beaucoup plus de besoins et la femme a moins de besoins. Et on voit que les gens qui adhèrent à cette idée-là, ben, que les femmes qui adhèrent à cette idée-là acceptent beaucoup plus souvent d'avoir des rapports sexuels quand elles n'en ont pas envie, et que les hommes qui adhèrent à cette idée-là trouvent que c'est normal que leur partenaire femme accepte des rapports sexuels, même si elles n'en ont pas envie, parce qu'il y a un besoin physique à assouvir. Donc, pour le sociologue, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est pas de dire « Ah, il pense pas bien, ah, il pense bien ». Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça veut dire, ça. Et dans des analyses beaucoup plus approfondies, en fait, on se rend compte, et c'est un point qui est, je crois pour moi en tout cas, le plus important de toutes ces études sur la sexualité, et que je vais essayer d'exprimer très simplement, ça veut dire que tout simplement, les différences entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes, qu'on voit dans la sexualité, vous avez vu aussi bien au niveau des pratiques qu'au niveau des opinions, et bien ces différences, en fait, elles s'expliquent, elles ne font que refléter les différences où on parle même d'inégalité sociale entre les hommes et les femmes qui existent dans les autres sphères sociales. Et par exemple, les inégalités en termes d'accès aux postes à responsabilité, que ce soit en politique ou que ce soit dans les grandes entreprises, les différences de salaire entre les femmes et les hommes qui sont toujours, même si les choses ont changé, de 23% à compétences égales, les différences d'investissement, ça ne vous touche pas, mais peut-être qu'un jour ça vous touchera. Quand il y a des enfants dans une famille, c'est les femmes qui s'occupent de 80% des tâches domestiques. Et bien, toutes ces différences qui existent dans la société française, finalement, on les retrouve dans la sexualité. Et c'est pour ça que travailler sur la sexualité pour des sociologues et des chercheurs, c'est extrêmement intéressant. C'est que ce qui se joue dans la sphère de la sexualité, c'est très largement déterminé par ce qui se joue dans les autres sphères sociales. Et que cette idée-là, on a fait des analyses très très approfondies, cette idée-là, finalement, elle permet de justifier le fait qu'il y a encore beaucoup d'inégalités entre hommes et femmes dans les autres sphères sociales. Parce que finalement, de se dire que les inégalités de salaire, les inégalités d'accès à des postes à responsabilité, les inégalités du partage domestique dans la famille, eh ben, elles sont plus acceptables si on considère que finalement, au fond du fond, c'est-à-dire dans ce qu'il y a de plus intime qu'est la sexualité, c'est pas pareil les hommes et les femmes, les besoins des hommes et des femmes, c'est pas pareil. Donc pour un sociologue, si vous voulez, cette idée-là, C'est ce qu'on appelle le socle des représentations de la sexualité. C'est l'idée la plus forte de toutes les représentations que les gens ont sur la sexualité. C'est une idée qui assoit le fait que, fondamentalement, les hommes et les femmes, c'est pas pareil dans la sexualité, et ça permet de justifier les inégalités sociales qui existent dans les autres sphères sociales. La sexualité, c'est pas quelque chose d'indépendant. Alors, évidemment, quand vous avez fermé la porte et que vous êtes avec votre partenaire, évidemment que là, c'est l'intimité, mais le choix du partenaire, le fait de pouvoir dire j'ai envie, j'ai pas envie, le fait de pouvoir dire non, le fait de, etc., de pouvoir exprimer ses désirs et tout ça, évidemment, quand vous êtes au dernier moment dans l'intimité, ça regarde que les deux partenaires, mais cette capacité de choisir si on a envie, quel partenaire, etc., etc., ce sont des choses qui sont profondément socialement déterminées. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur les représentations de la sexualité, pour garder quelques minutes sur la prévention? C'est que ce qui caractérise la société d'aujourd'hui, c'est que avant, les adultes, ils avaient juste en gros l'école et l'armée qui donnaient des grands discours sur la sexualité. L'école, la famille et l'armée. Hein, c'était les grandes institutions qui édictaient des discours sur la sexualité. Aujourd'hui, il y a une multitude de sources sur la sexualité. Il y a l'école, bien sûr, il y a les parents, il y a la médecine qui dit plein de choses sur la sexualité, il y a tous les réseaux sociaux, Facebook, etc., il y a évidemment les copains, il y a les magazines, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes sont exposés à une multitude de discours sur la sexualité, dont les films porno, et je reviendrai là-dessus en conclusion, mais ça n'est que pour moi qu'un don, et ce n'est pas que les films porno qui construisent les représentations de la sexualité. Donc les jeunes sont confrontés à une multitude de discours sur la sexualité et ces discours peuvent être contradictoires les uns avec les autres. Et c'est à chacun d'entre vous de faire un peu sa cohérence, sa propre cohérence entre tout ce qu'on peut entendre comme discours sur le sujet. Alors, il y a beaucoup moins de différences entre générations, parents, enfants, sur les grandes idées sur la sexualité qu'il n'y en avait dans les années 70. Mais ce qui persiste, vous voyez, c'est les différences hommes-femmes et surtout qui persiste envers et contre tout, je dirais, et qui intéresse vraiment le chercheur, c'est cette idée selon laquelle il y a d'un côté une sexualité féminine qui doit être relationnelle, et de l'autre côté une sexualité masculine qui, elle, est pensée sur la question des besoins à assouvir. Et ce qui est très surprenant pour le sociologue, c'est pourquoi tout a évolué dans les pratiques, vous avez vu, et pourquoi dans les représentations, celle-là n'évolue pas. C'est la seule hypothèse, parce que le travail du chercheur, c'est de vérifier des hypothèses. La seule hypothèse qui tient vraiment le coup, c'est de dire que si ça n'évolue pas dans les représentations sur la différence homme-femme, c'est parce que cette représentation, elle a une espèce de fonction sociale, elle permet de légitimer des inégalités sociales qui existent dans d'autres domaines. Voilà, je vais maintenant passer au troisième et dernier point sur la question de contraception-prévention. Pour dire qu'une chose qui, là, pour le coup, a beaucoup changé, c'est de parler de contraception ou de sida avant le premier rapport. Vous voyez que 70% des filles, aujourd'hui, parlent de contraception avant leur premier rapport sexuel. Les femmes de 60-69 ans, elles n'étaient que 16% à en parler. Les garçons, c'est moins glorieux, 49%, et leurs aînés, n'étaient que 12% à en parler. Pour le sida, on a des chiffres qui sont moins éloignés. C'est 47% des filles et 40% des garçons qui parlent des MST et du sida avant leur premier rapport sexuel. Et les plus âgés, là, les 60-69 ans, ils étaient que 3%, femmes et hommes, à parler de sexualité, de sida, évidemment, ils n'en parlaient pas, il n'y en avait pas. Mais des IST, il y en avait, des infections sexuellement transmissibles, ils étaient que 3% à en parler. Donc on voit des évolutions spectaculaires. Mais vous voyez quand même qu'il y a toujours une différence filles-garçons assez incroyable. Hein. C'est-à-dire que les filles, elles sont, on le voit, beaucoup plus nombreuses à parler de contraception, mais elles sont aussi plus nombreuses à parler de sida, alors que le sida, ça concerne évidemment autant les filles que les garçons. Je dirais que la contraception aussi, ça concerne autant les filles que les garçons, même si en cas d'échec de contraception, c'est la fille qui se retrouve enceinte. Le garçon est quand même tout autant concerné. Alors, quelques données pour dire que ces jeunes qui ont des rapports sexuels de plus en plus tôt, de plus en plus délurés, qui ne se protègent pas, ben non. Vous voyez là, ça c'est l'utilisation du préservatif au premier rapport sexuel. Vous voyez, c'est spectaculaire. D'un point de vue de la santé publique, c'est spectaculaire ce changement de comportement en quelques années. Aujourd'hui, on a près de 90% des rapports sexuels qui sont protégés par le préservatif au premier rapport. C'est énorme. C'était, vous voyez, 10% avant les premières campagnes sur le sida. Ça veut dire que des campagnes de prévention qui sont bien faites, elles sont extrêmement efficaces. Alors, il y en a quand même 10%, 1 sur 10, qui ne se protègent pas. Et c'est surtout les jeunes qui sont issus de milieux sociaux les plus défavorisés, qui ont plus de difficultés à se protéger lors de leur premier rapport sexuel. Alors, ça, c'était juste une diapo pour dire que la contraception est largement utilisée par les jeunes qui ont des rapports sexuels. Hein, vous avez 80% des 15-19 ans qui utilisent une contraception au moment de leur premier rapport, enfin au moment où ils ont une sexualité entre 15 et 19 ans. C'est beaucoup la pilule et le préservatif à cause du sida. Alors, l'autre chose importante, c'est que dont j'ai parlé en introduction, c'est cette idée que les taux d'IVG augmentent chez les jeunes à partir de 15 ans, alerte rouge sur la santé publique et la sexualité des ados. Effectivement, vous avez des taux d'IVG qui, depuis 90, augmentent chez les plus jeunes. Vous avez les moins de 18 ans, c'est la courbe bleu marine tout en bas qui augmente, et celle juste au-dessus en rouge qui est les 18-19 ans. Soit les taux d'IVG augmentent chez les plus jeunes. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit que IVG, ça veut dire avortement, interruption volontaire de grossesse, c'est quand on se retrouve enceinte et qu'on n'a pas envie de poursuivre la grossesse. La loi, depuis pas longtemps, hein, enfin depuis 75, pour vous ça fait depuis longtemps, mais vos mères et vos grand-mères, elles ont vécu leur sexualité, elles n'avaient pas le droit d'avoir recours à l'avortement si elles ne voulaient pas qu'une grossesse se poursuive. Et beaucoup d'entre elles en mouraient en ayant des avortements clandestins. Et je vous rappelle que, à l'échelle de la planète, la majorité des femmes n'ont pas le droit d'interrompre une grossesse et que la mortalité liée à l'avortement est une des principales causes de mortalité des femmes dans le monde. Hein? Parce que même si l'avortement est interdit, toutes les sociétés ont toujours pratiqué l'avortement. Donc nous, on vit dans un pays très privilégié de ce point de vue-là. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que les femmes mineures, les ados, quoi, eh ben, pas plus que les adultes, elles n'avaient pas de contraception du tout au moment où elles se sont retrouvées enceintes. C'est 1 sur 3, comme les adultes. Mais ce qui est spécifique aux ados, c'est que la majorité, enfin, le 40% des avortements surviennent alors que la jeune femme et son partenaire utilisaient un préservatif. Et utiliser un préservatif, je vous ai montré juste avant, oui, on utilise de plus en plus des préservatifs à cause du sida, et c'est très bien. Le problème qui se pose chez les jeunes, c'est qu'il peut y avoir des problèmes de préservatif. D'abord, on peut un soir ne pas en avoir mis, un soir ou dans la journée d'ailleurs, ne pas en avoir mis, ça a pu se glisser, il a pu se déchirer, et que ce qu'on voit dans nos enquêtes, c'est que très souvent, derrière, il n'y a pas le réflexe contraception d'urgence qu'il faut absolument utiliser juste après en cas de difficulté avec le préservatif. Mais surtout, ce que je veux montrer là, c'est que, en fait, il y a vraiment des taux d'IVG qui augmentent. C'est-à-dire que les jeunes recourent de plus en plus souvent à l'avortement, mais ça n'est pas lié au fait qu'il y a plus d'échecs de contraception. Il n'y a pas plus de conception de grossesse, il n'y a pas plus de grossesse aujourd'hui, en 2010, chez les mineurs, qu'il y en avait en 90. C'est un chiffre qui n'a pas augmenté. Les jeunes ne se sont pas relâchés dans leur vigilance contraceptive. Absolument pas. Pourquoi les IVG ont augmenté? Parce que, face à une grossesse non prévue, les jeunes décident plus souvent aujourd'hui de l'interrompre pour pouvoir essentiellement poursuivre leurs études. Donc c'est ça qui est important, c'est que la décision face à un échec de contraception de dire « j'arrête cette grossesse », eh bien aujourd'hui, c'est 67% des 16-17 ans, en 90, c'était 54%. Et c'est pour ça que les taux d'IVG augmentent. C'est pas parce que les jeunes sont plus irresponsables vis-à-vis de leur contraception, c'est que face à un échec de contraception, les jeunes femmes, très souvent avec l'appui de leur partenaire masculin, décident d'interrompre cette grossesse pour pouvoir prolonger leurs études ou parce qu'elles n'ont pas envie à 17 ans de se retrouver mères alors que le contexte économique est particulièrement difficile. Et que la norme en France, c'est d'avoir son premier bébé autour de 30 ans. Alors, comment expliquer l'augmentation des IVG chez les jeunes? Est-ce qu'il y a plus de jeunes concernés? Non. Vous avez vu que le premier rapport sexuel, il reste au même âge. Hein. Donc il n'y a pas plus de jeunes concernés par les questions d'avortement. Est-ce qu'il y a un moindre recours à la contraception? Non. Il y a toujours autant de grossesses chez les jeunes aujourd'hui qu'en 1990. Est-ce qu'il y a plus de difficultés avec la contraception? Non, mais il y a des problèmes liés au préservatif. Et qu'un des enjeux essentiels, c'est que si les jeunes ont bien attrapé le réflexe préservatif à cause du sida, la question, c'est le passage du préservatif à une autre méthode de contraception. Et ça, ce passage, il est souvent difficile. Et qu'entre le préservatif qu'on arrête, parce qu'on en a marre au bout d'un moment, et avant d'utiliser une méthode de contraception, bah là, il y a des petites périodes où une grossesse peut vite arriver. Et que l'autre point, c'est que les médecins, ils continuent à prescrire des méthodes de contraception sans avoir compris ce que je vous ai montré tout à l'heure, que ce qui a changé dans la vie des jeunes, c'est pas l'âge au premier rapport, c'est qu'entre le premier rapport et la première mise en couple, aujourd'hui, il y a 5 ans de plus que dans les générations d'avant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on fait un premier bébé à 30 ans. Il y a 25 ans, on le faisait à 25 ans. Donc vous voyez, entre le premier rapport sexuel et la première mise en couple, il y a 5 ans de plus. Donc les jeunes, ils commencent pas plutôt leur sexualité, mais avant de se mettre en couple, ils ont plus de partenaires. Et d'ailleurs, surtout les femmes, aujourd'hui, ont plus de partenaires qu'avant. Elles ont plus diversifié leur vie sexuelle que les hommes. Et donc, pendant toute cette période-là, eh ben, il faut trouver des méthodes de contraception qui soient adaptées au fait qu'on puisse avoir un petit copain pendant 3 mois, pouf, plus rien, pouf, un autre pendant 6 mois, pouf, plus rien, et que dans une vie sexuelle très diversifiée, eh ben, la pilule, c'est pas forcément la méthode la plus adaptée. Il y a plein d'autres méthodes de contraception, et qu'une des raisons des échecs de contraception, c'est que les médecins continuent à prescrire des méthodes qui sont pas forcément les plus adaptées pour des jeunes qui ont une sexualité qui peut être caractérisée par une vie sexuelle assez irrégulière. Donc, pourquoi il y a plus d'IVG chez les jeunes? Parce que, face à une grossesse non prévue, les jeunes ont plus de recours à l'avortement. En conclusion, pour laisser le temps au débat, ce que je voudrais dire, c'est que on voit que les filles et les garçons ont maintenant, et ça c'est une caractéristique importante, des conditions d'entrée dans la sexualité qui sont beaucoup plus proches que les filles et les garçons des générations plus âgées. Pourquoi ? Parce que les filles ont de plus en plus accès à l'éducation et parce que les filles ont de plus en plus accès, les femmes, à des travaux qui sont payés. Et donc, il y a une plus grande indépendance des femmes dans la société française par rapport aux générations d'avant. Le deuxième point de la conclusion, c'est que ces différences filles-garçons dans la sexualité, ben, je vous ai montré qu'en fait, elles se construisaient dès l'entrée dans la sexualité. Hein, et en fait, sans doute même bien avant l'entrée dans la sexualité. Tout ce qu'on apprend, si vous regardez les bouquins pour la sexualité qui traitent de sexualité, si vous avez des frères ou des sœurs de plus jeunes, vous verrez que ça commence pas à l'adolescence qu'on apprend aux jeunes aux filles et aux jeunes garçons à se comporter différemment. Que ces différences entre filles et garçons, elles s'inscrivent dans cette représentation que je vous ai montrée, qui est la plus forte dans la société française. Les hommes ont par nature plus de besoins, ce qui n'est pas vrai. Et que ce qu'on peut tirer de tout ça, c'est que ce qui est important aujourd'hui quand on parle de sexualité, c'est pas de parler que de « attention, grossesse non prévue, attention, avortement, attention, VIH ». Évidemment, tout ça est important. Évidemment, tout ça est important. Mais c'est d'essayer de porter... d'avoir une perception de la sexualité qui soit beaucoup plus globale. Vous voyez bien qu'il n'y a rien de normal dans ce domaine. On peut commencer son premier rapport sexuel à 13 ans comme on peut le commencer à 25 ans. C'est pas parce qu'en moyenne, c'est 17,2 pour les garçons et 17,6 pour les filles que c'est normal. Ça n'a absolument rien de normal. La seule chose qui est normale, c'est d'avoir des rapports sexuels quand on en a envie et quand son partenaire en a envie. Et ce qu'on voit, c'est que de ce point de vue-là, les filles et les garçons ne sont pas socialisés de la même manière sur ces enjeux d'envie et de besoin. Et puis le dernier point, et je terminerai là-dessus, c'est que je vous ai montré en introduction ce contrôle sur la sexualité, sur l'autonomie des jeunes, et je vous ai montré à quel point les parents contrôlent beaucoup moins, finalement, la vie sexuelle des jeunes au sens où ils n'en fixent plus les normes comme ils les fixaient auparavant. Et que ces normes, elles sont diffusée par toute une série de personnes, des médecins, l'école, Facebook, les copains, tout ce que vous voulez, et que finalement c'est l'inquiétude du discours des adultes sur la sexualité des jeunes dont on a vu qu'il ne correspondait pas à la réalité. Et bien cette inquiétude, nous sociologues, on l'interprète comme le fait que les parents n'ont plus ce contrôle très fort qu'ils avaient auparavant sur les normes qui structurent la sexualité des ados et le fait que les ados ont une... Vous avez vu l'âge au premier baiser qui commence beaucoup plus tôt que dans les générations précédentes. Donc il y a toute cette phase d'entrée dans la sexualité qui échappe au contrôle des parents. Et que les discours alarmistes qu'on entend souvent sur la pornographie, évidemment, si vous avez vu des films pornographiques, et après ce que je vous ai raconté, vous serez bien à même d'en décrypter un et de voir à quel point les représentations de la sexualité des femmes et des hommes, elle est quand même sacrément inégalitaire dans ces films-là. Et d'aucuns de s'alarmer que tous les jeunes regardent des films porno et que du coup, ils vont tous avoir une sexualité extrêmement violente, non respectueuse des femmes, etc. Alors, d'abord, heureusement qu'il ne suffit pas de regarder un film pour agir bêtement pareil, parce qu'avec tous les trucs de policiers qu'on s'enfile les uns et les autres, il y aurait un taux de criminalité à faire réagir notre chère classe politique. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que les films porno qu'on peut voir, c'est un élément du discours qu'on entend sur la sexualité parmi des tas d'autres. Et qu'il ne faut pas avoir cette vision absolument alarmiste. Et je crois que cette vision alarmiste traduit avant toute chose la perte de contrôle de l'institution familiale sur les sorties et la sexualité et la phase d'entrée en sexualité des jeunes. Et que finalement, c'est quand même des choses assez récentes qui se sont passées en quelques générations et qu'il faudra encore sans doute quelques années pour que l'autonomie sexuelle des jeunes soit véritablement acceptée par la société et par les parents en particulier. Voilà, je vais arrêter là pour laisser le temps aux questions.